rencontre avec nos évêques. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Rencontre avec nos évêques. Pendant tout ce mois de février, je suis accompagné par Monseigneur de Kerimel. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Thibault.
Vous êtes archevêque de Toulouse et métropolitain de la province Midi-Pyrénées. Et j'ai la joie de vous recevoir un an après votre arrivée dans le diocèse de Toulouse. Et puis après aussi cette matinale, puisque mardi dernier vous étiez au micro d'Isabelle Duché, et j'invite naturellement les auditeurs, s'ils le souhaitent, à réécouter votre interview sur notre site internet. J'aimerais revenir, si vous voulez bien, Monseigneur, sur l'actualité un petit peu brûlante de ce début de semaine où on a appris beaucoup de choses pas très agréables sur certains dominicains, les frères Philippe, sur Jean Vanier. On a un peu l'impression qu'un flot ininterrompu de scandales déferle sur l'Église, que les idoles tombent les unes après les autres. Comment est-ce que vous faites, comment est-ce qu'on nous pouvons faire pour garder l'espérance, pour rester cimenté sur nos bases, garder la foi, garder...
J'aime bien citer, alors il faut la comprendre, une phrase qu'aurait dit Jésus à Saint-Silouane du mont Athos, « Tiens ton âme en enfer et ne désespère pas
». Expliquez.
Oui, ce qu'il veut dire, c'est que il nous faut accepter de passer par des purifications et que le cœur de l'homme est compliqué et malade et qu'aujourd'hui, ce cœur de l'homme compliqué et malade est étalé au grand jour et donc c'est extrêmement douloureux. On en a tous assez.
Un sentiment de ras-le-bol un petit peu.
Oui, oui, ouais. Puis c'est à vomir. Enfin, c'est vraiment très dur à recevoir. Et en même temps, il faut sans doute passer par là et continuer à regarder le Christ qui est le sauveur de l'humanité et qui est descendu dans cette misère la plus sombre, la plus noire et qui a porté ça sur la croix. Enfin, et donc, quand on contemple la croix de Jésus, on doit voir en même temps justement comment l'être humain est capable de détruire son semblable profondément. Et comment en même temps le Christ a ouvert un chemin de vie au cœur de ces ténèbres les plus sombres. Et donc c'est pour ça qu'il nous faut garder la foi et l'espérance, c'est très important. Et en même temps accepter cette opération vérité qui a été déclenchée, que l'Église a assumée avec l'enquête, le rapport de la SIAZ, etc., mais elle a mis du temps. Oui. Il a fallu du temps pour prendre la mesure de cela et pour se dire, on va regarder les choses en face. Et c'est très bien, mais c'est très douloureux, évidemment, pour nous. Alors, un des signes d'espérance, au moment où justement toutes ces affaires sont étalées, moi, je vois de plus en plus de catéchumènes. Je rencontrais encore un jeune alors qui est baptisé, mais qui n'avait jamais été éduqué dans la foi chrétienne, jamais pratiqué. Il a été emmené par un ami un jour à la messe, et depuis il va à la messe tous les dimanches, et il demande la confirmation. Et je trouve ça magnifique. Voilà. Au moment même où on étale toutes ces horreurs, il y a aujourd'hui à la paroisse étudiante de Toulouse 65 catéchumènes. C'est énorme.
Donc des jeunes qui ont parfaitement conscience de ce que vit l'Église et qui pourtant voient le signe du Christ, comprennent cette croix, comprennent le sens de tout ça.
Voilà, parce qu'en fait il y a une quête de sens tellement grande et qu'effectivement ils regardent le Christ et donc ils font confiance à l'Église malgré tout, non pas dans la confiance en telle vedette. Et c'est le problème, vous disiez, les idoles tombent.
Ouais.
C'est une bonne chose que les idoles tombent, parce que justement on a pensé qu'on éviterait l'effondrement dans ces dernières années en jouant sur la séduction aussi. Et on a beaucoup joué sur la séduction et il est heureux que les idoles tombent.
Ça nous ramène à l'essentiel qui est la figure du Christ en fait.
Qui nous ramène à la figure du Christ, à l'humilité et qui nous rappelle qu'il n'y a pas de chemin de vie qui ne passe par la croix du Christ. Et nous devons nous rappeler cela. Et je prêchais le dimanche, là où nous avons eu l'évangile sur les béatitudes. Eh bien, je prêchais sur les béatitudes, mais ce chemin de bonheur, il passe par la croix. Et on ne peut pas l'oublier. Et que la vie chrétienne n'est pas un chemin de facilité, c'est un chemin de bonheur, oui, qui nous met au large, qui nous libère, justement, qui nous libère des idoles, qui nous libère des gourous et autres, et qui passe par la croix du Christ.
Il y a quelques semaines d'entrée dans le carême, c'est un signal que vous nous envoyez, peut-être une réflexion, une nouvelle maturité autour de la croix, et une nouvelle manière de la regarder comme étant une figure qui... La croix devenant figure d'espérance.
Oui, ben c'est-à-dire que c'est le triomphe de l'amour, la croix. C'est le triomphe de l'amour. Et donc, alors bien sûr, elle débouche sur la résurrection. Et nous, chrétiens, nous ne regardons la croix que dans cette perspective de la résurrection. Mais c'est le triomphe de l'amour. Vous savez, il y a une formule latine qui avait souvent à la base des calvaires, « O crux ave, spes unica ». Salut, ô croix, notre unique espoir, ou notre unique espérance.
Et peut-être une phrase à méditer alors, voilà. Apprendre avec soi et à méditer. Alors plus concrètement, Monseigneur, plus concrètement, votre engagement en tant que métropolitain, il a pris une forme récemment, une forme très concrète, puisque vous avez conçu et nommé une personne à la tête d'un, je ne me souviens plus de son titre exact, c'est un service interdiocésain de lutte contre les abus.
Voilà, de prévention et de lutte contre les abus.
De prévention, voilà. Très important, de prévention et oui. De lutte contre les abus. Donc à la période de Mgr Darode, qui il y a un peu plus d'un mois, mi-janvier, a proposé une rencontre ouverte à tous ceux qui le désiraient, qui a eu un succès, qui a vraiment dépassé vos espérances. Il y a des personnes qui ont été refusées l'inscription. C'est les signes de quoi pour vous?
C'est aussi une prise de conscience par la communauté chrétienne de la nécessité de travailler justement à sortir de cet enfer que nous révèlent les révélations successives et donc de prendre les moyens de prévenir ces abus, de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'abus, que les jeunes en particulier soient profondément respectés et puissent... grandir dans une vraie liberté et non pas sous des emprises diverses et variées, et en particulier c'est la question des abus sexuels. Alors nous sommes dans une société en même temps très érotique et pornographique, mais je pense que cette prise de conscience dans l'Église et en partie dans la société est très utile justement pour sortir de cette logique et pour retrouver le respect de la personne humaine, pour retrouver la belle notion de chasteté, pour retrouver le sens de relations ajustées des uns aux autres, où l'autre n'est pas réduit à un objet pour ma propre satisfaction, pour ma propre jouissance. Et cette prise de conscience est très, très nécessaire, très positive. Durant cette journée, donc, il y a eu un témoignage d'une personne, d'une victime, et puis un témoignage d'un médecin l'un et l'autre ont manifesté le drame et le dégât que produit un abus sexuel chez une personne, un dégât extrêmement profond. Et je pense que ça a aidé à la prise de conscience, justement, et à la nécessité donc, de prendre des mesures de prévention. La nécessité, bien sûr, si nous connaissons des personnes abusées, de les aider soit à se signaler, soit d'opérer un signalement. Et la nécessité aujourd'hui de ces cellules d'écoute qui sont qui remplissent une mission. Moi, je suis très reconnaissant à la cellule d'écoute de Toulouse, qui fait un travail considérable et donc avec un très grand respect des personnes et j'ai des retours des victimes très positifs.
Et vous étiez, vous, à cette journée, vous y avez assisté. Comment est-ce que les personnes, les 120 personnes qui étaient là, leur motivation profonde, c'est la recherche de la vérité, c'est le soutien aux victimes?
C'est tout cela. Et puis, donc, c'est comment faire?
Comment faire?
comment faire quand on est en face d'une situation, comment faire pour déployer la prévention.
Donc on est vraiment aujourd'hui dans les dispositifs, la technique pour assurer, rassurer.
Oui.
Tout ça se met en place partout dans les 8 diocèses de la province.
Oui, oui, oui. Alors, il y a des diocèses qui ont moins de ressources
ouais.
humaines. Et donc, justement, cette collaboration entre diocèses pour permettre, par exemple, des diocèses n'ont pas les moyens de créer une cellule d'écoute. Et donc, comment ils peuvent travailler avec un autre diocèse de la province pour permettre cette écoute bienveillante des personnes.
Bien, nous entendons votre très grande fermeté sur le sujet, Monseigneur de Kerimel.
Oui.
C'est important que...
C'est important qu'on s'en sorte, parce que, nous n'avons pas le droit de tromper Dieu et d'agir en contradiction ouverte avec l'Évangile. Nous avons au contraire un devoir de vivre l'Évangile et de prêcher par la parole, mais aussi par nos attitudes, la grande dignité de la personne humaine, la très haute dignité de la personne humaine, de toute personne humaine, et en particulier des plus petits, des plus fragiles.
Merci beaucoup, Monseigneur.
Rencontre avec nos évêques.